C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui Martin Villeneuve qui nous parlera entre autres du documentaire Il était une fois Martin Villeneuve, immersion dans l'univers du réalisateur de Mars et Avril et d'Imelda, mais j'imagine aussi de ses projets en cours et à venir. Bonjour Martin Villeneuve.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, ça va très bien, et vous?
Oui, merci.
Oui, la pandémie ne vous paralyse pas trop?
Non, en fait, j'en profite pour faire des projets que je reportais depuis longtemps et puis pour achever des trucs et puis avancer sur les projets qui peuvent l'être.
Ah, ben c'est super. Écoutez, le titre du documentaire, Il était une fois Martin Villeneuve, est-ce que c'est un clin d'œil au conte ou au film de Sergio Leone?
Peut-être. En fait, ça aurait pu être sur les traces de Martin Villeneuve. Je trouvais que le titre qu'ils ont choisi est quand même assez assez intriguant. Mais j'ai pas du tout participé à la création de ce documentaire, sinon que d'accorder une entrevue et puis de bien humblement leur donner mes commentaires sur leur montage.
Ah oui.
Mais sinon, ils ont travaillé très fort. Et puis la crise du COVID leur a aussi été positive en ce sens qu'ils ont vraiment retravaillé jusqu'à la forme finale qui est présentement en ligne.
Oui, et qui est fort intéressante. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Benoît, qui est le réalisateur du documentaire, a voulu faire ce documentaire sur vous? D'ailleurs, c'est un peu embêtant, hein? Je vous interviewe sur un documentaire qui est sur vous. C'est un peu narcissique tout ça, là.
Oui, effectivement. Ben en fait, c'est pas moi qui ai initié le projet, donc on peut pas parler de narcissisme dans ce cas-ci.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vraiment eux qui m'ont approché, et puis même j'ai commencé par refuser parce que imaginez-vous qu'ils voulaient encore une fois parler de Mars et Avril, et puis ça fait quand même 8 ans que mon premier long métrage est sorti, et puis j'avais le sentiment d'avoir tout dit à propos de ce film-là et de rien avoir de nouveau à rajouter. J'avais même donné un TED Talk à ce propos-là en 2013 en Californie. Donc, j'avais référé les étudiants au contenu qui était disponible en ligne en leur proposant d'approcher un artiste, en fait, qui aurait des choses plus nouvelles à dire. Et puis, parce qu'il faut bien dire que dans leur cours de cinéma, on leur avait présenté Mars et Avril comme étant le premier ou un des premiers films de science-fiction québécois. Ils avaient beaucoup aimé ça. Et ils devaient, dans le cadre de leur cours, produire le portrait d'un artiste québécois. C'est pour ça qu'ils m'avaient approché. Et ils sont revenus à la charge, en fait, malgré le fait que j'ai dit non. Ils sont revenus une deuxième fois et même une troisième fois en disant, écoutez, M. Villeneuve, on veut vraiment que ce soit vous. On va parler d'autre chose que de Mars et Avril. On va aussi interviewer certains de vos collaborateurs. Ils ont parlé de Robert Lepage, François Skeyton et Denis. Bon, mon frère Denis, ça, c'était une surprise. J'étais pas au courant, mais ils ont travaillé très, très fort parce qu'on le sait, ce sont des gens qui sont assez difficiles à avoir en entrevue.
Tout à fait. Donc, c'est le résultat d'un travail scolaire, ce documentaire, si on comprend bien, n'est-ce pas? Vous êtes, à ce jour, dit-on dans le documentaire, le seul Québécois à avoir prononcé justement une conférence TED. Pour le bénéfice de nos auditeurs, les conférences TED mettent à l'avant-scène des personnes motivantes et inspirantes, et ces présentations n'excèdent pas, je pense, 20 minutes. Comment devient-on conférencier TED?
Ben, en fait, on ne peut pas appliquer à TED, il faut être approché par TED. Donc, moi, j'ai eu on dit dans la vie que tout est une question de timing. J'étais en fait à Vancouver en décembre 2012, avec Caroline Davernas pour présenter Mars et Avril, et je me suis fait approcher par le grand gourou de TED, en fait, qui est Chris Anderson, qui était présent dans la salle, qui avait vu Mars et Avril et qui voulait que je parle du processus de création derrière le film. Ce qu'il trouvait intéressant, en fait, c'est comment les contraintes majeures qu'on avait rencontrées durant la production de ce film-là ont finalement nourri la créativité du film et voilà, ont contribué au résultat que ça a donné. Parce que c'est un film de science-fiction. Ce qui étonnait les Américains, en fait, c'est que ça a été fait avec très, très peu d'argent.
C'est ça, oui.
Visuelle très, très ambitieuse. Puis bon, voilà, donc ils voulaient que je leur parle un petit peu de ça, sachant que ça allait parler aux gens au-delà des limites du cinéma, parce que ACTED, c'est Technology, Entertainment and Design.
Oui.
Et il faut amener bien humblement une petite brique dans l'histoire du monde pour essayer de changer le monde.
Donc, oui, ben, je pense que vous avez réussi. J'ai écouté aussi cette conférence et c'est fort inspirant. En fait, comme le documentaire met en évidence votre créativité et vous l'expliquez très bien dans cette conférence TED, comment vous cultivez cette dimension essentielle à tout projet, parce qu'il y a toujours des obstacles à surmonter, je pense, quand on fait du cinéma.
Oui, effectivement. Puis, bon, la mentalité commune, c'est qu'il y a un obstacle, on essaie de le contourner. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'au contraire, il faut embrasser la contrainte puis essayer de voir ce qu'elle cache comme opportunité. Parce que des fois, les problèmes sont nos alliés. Hein. C'est facile à dire, mais c'est en pratico-pratique, là, quand on fait un film, c'est une succession de problèmes qu'il faut résoudre. Et je pense qu'il y a matière dans ça à trouver des choses qui finalement peuvent stimuler une équipe, qui peuvent, si on regarde le problème d'un autre angle tout d'un coup, comme par exemple la non-disponibilité de Robert Lepage dans Mars et Avril a donné naissance à sa tête holographique, ce qui est quand même étonnant, puis ce qui fait que c'est un des aspects intéressants, je pense, du film, et c'est né d'une contrainte. Donc, c'est pour dire que finalement, dans tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie, pas juste en cinéma, il y a moyen de voir ça comme des défis de créativité.
Vous travaillez, je pense, actuellement à un film d'animation qui s'appelle Aquarica. Est-ce que mes informations sont bonnes?
Oui, tout à fait.
Oui. Alors, c'est avez-vous des exemples de contraintes, justement, qui sollicitent votre créativité dans ce contexte-là?
Oui, ben en fait, ne serait-ce que la contrainte du temps, parce que, bon, si on regarde un film comme Les Triplettes de Belleville, par exemple, ça a pris 13 ans à mettre à jour ce film-là, qui est très beau.
Oui.
Moi, pour ma part, ça fait 8 ans que je travaille sur le projet, et puis mes deux collègues, François Skaiten et Benoît Sacal, eux, ça fait plus de 20 ans. Donc, vous imaginez le travail d'une vie. C'est un projet très, très ambitieux, et puis je me rends compte à quel point c'est difficile aujourd'hui, pas juste en animation, mais en cinéma de façon générale, de proposer une idée nouvelle et puis de dire, voilà, on va faire un film avec ça. C'est presque devenu impossible. On n'a pas le support financier pour faire ce genre de projet-là. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut prendre son mal en patience, avancer étape par étape, puis pas lâcher. C'est une question de persévérance.
Ah mon Dieu, je comprends quand je vois 8 ans et 20 ans, là. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous parler de la sortie prochaine d'Imelda 2, je crois, dans lequel vous incarnez votre grand-mère paternelle. Alors, je vous ai découvert des talents d'acteur aussi, et ce, aux côtés de Ginette Renoux et Robert Lepage. Là aussi, il y a eu des embûches fort nombreuses.
C'est parce que j'ai essayé pendant 5 ans de faire un long métrage basé sur ma grand-mère, parce que le court métrage qui était sorti en 2014 avait eu un certain succès, dans le sens qu'il avait remporté des prix, il avait fait des festivals, puis c'est un truc qui m'avait surpris moi-même, parce que à la base, c'était fait pour faire rire ma famille. Donc, mais quand j'ai vu que les gens avaient envie d'en voir plus, je me suis dit, tiens, voici un film qui serait bien à produire au Québec, parce que ça demande pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de créativité derrière, puis ça intéresse les gens. Donc, trois facteurs qui risquent d'intéresser nos institutions financières.
Oui.
Et puis, je ne me suis buté qu'à des refus, en fait, pendant 5 ans. Impossible de lever un sou pour tourner Imelda en version long-métrage, même si je ne demandais pas beaucoup d'argent. Et puis, j'avais aussi le support des acteurs, Robert Lepage, Ginette Renaud, j'avais Nicole Robert qui était intéressée à produire le film chez GoFilm. Donc, c'était une équipe gagnante. Mais impossible même de faire lire mon projet par les institutions, c'est dire la difficulté. Mais comme j'avais en fait le support de ces deux acteurs-là,
oui.
Je me suis dit, tiens, je pourrais en fait tourner la contrainte en opportunité, saisir l'opportunité qui est là de deux acteurs qui veulent tourner avec moi, ce qui est quand même pas rien. Et j'ai donc rappelé l'équipe qui avait fait le premier court-métrage avec moi, puis on a fait deux autres courts-métrages, donc tourner encore une fois sans aucun budget, mais avec beaucoup d'amour. Et on a fait Imelda 2, Le Notaire, et Imelda 3, Simone. Donc, je suis en train de les achever. Ils vont être finis pour cet automne.
Ah, ben mon Dieu, on a hâte de voir ça. Si on revient au documentaire à votre sujet, comment vous avez reçu les témoignages de créateurs, justement, comme Robert Lepage, qui semble être un complice à vous, là, parce qu'on le revoit à répétition, ou votre propre frère, Denis?
Oui, ben en fait, Robert, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités créatives et qui a vécu lui aussi des grosses difficultés de financement au Québec. Hein, on le sait, Il a arrêté de faire du cinéma il y a plusieurs années parce qu'il se butait lui aussi à des refus des institutions canadiennes avec les téléfilms. Donc, il y a une certaine solidarité et puis il croit à ce que je fais. Évidemment, moi, je l'admire depuis que j'ai vu une pièce de théâtre. J'avais l'âge de mon fils, la première fois que ma mère m'a amené voir une pièce de Robert Lepage, qui était Les Aiguilles et l'Opium, et j'avais vraiment découvert un univers incroyable. Donc, le fait de pouvoir maintenant collaborer, parce que c'est un collaborateur qui revient aussi, hein. On a travaillé ensemble sur Mars et Avril, là, il revient dans mon univers avec Imelda. On travaille aussi ensemble sur un nouveau projet de théâtre. Donc, c'est un collaborateur avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et même chose pour François Skelton, l'illustrateur belge, avec qui j'ai fait Mars et Avril. On travaille ensemble maintenant sur Aquarica, puis sur un autre projet de science-fiction aussi aux États-Unis. Donc, c'est très stimulant tout ça de voir que ces collaborateurs-là reviennent. Et mon frère Denis, en fait, c'est la première fois qu'il parlait de moi publiquement, donc j'étais très touchée de le voir là-dedans.
Ah ben tant mieux, tant mieux. Alors écoutez, j'invite nos auditeurs à visionner ce documentaire qui est d'une durée de 14 minutes et qui s'intitule « Il était une fois Martin Villeneuve, immersion dans l'univers du réalisateur de Mars et Avril et d'Imelda ». C'est diffusé sur la plateforme Vimeo, c'est facile, c'est gratuit. Pardon. Donc, vimeo.com/38-69-56-93-0. Alors, Martin Villeneuve, merci beaucoup de cette entrevue fort sympathique. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et vraiment, vous êtes une inspiration pour tous ces jeunes qui s'intéressent au cinéma. Je pense que ça vaut la peine de voir ce documentaire et votre conférence TED.
Merci beaucoup, Monique, c'est très gentil.
Ben, à la prochaine, peut-être. Au revoir.
Merci, au revoir.